Il est 18h.
Une serre qui était par terre, les arceaux tordus sur les cultures. Normalement, il doit avoir une semaine ou 15 jours de travaux à faire. Hein. Ça fait mal, vraiment mal au cœur.
Des pentes d'eau pendant des heures depuis la nuit dernière, particulièrement sur la région de Beauvais. Dégâts parfois impressionnants. Un adolescent est porté disparu. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Ce soir, nous ferons le point sur la situation. À quoi faut-il s'attendre pour les prochaines heures? Nous serons en direct avec l'un des responsables des secours du département de l'Oise. Dans l'actualité également, les régionales, les candidats avaient jusqu'à 18h pour déposer leur liste en vue du second tour. C'est une nouvelle campagne qui démarre. En PACA, les rêves du Rassemblement national pourraient se briser. En Ile-de-France, la gauche espère faire tomber la sortante Valérie Pécresse. Un procès hors norme aux Assises de Nantes. Un accusé soupçonné d'avoir assassiné toute une famille. Il comptait faire main basse sur un trésor qui finalement n'existait pas. L'Euro de foot, crise diplomatique autour du drapeau arc-en-ciel, celui de la communauté LGBT. La ville allemande de Munich voulait le déployer sur son stade pour le match face à la Hongrie. Colère des Hongrois, veto de l'UEFA et 13 pays dont la France qui demandent à la Commission européenne de prendre ses responsabilités. On parlera également des Bleus, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale et qui affrontent demain soir le Portugal. La bourse à Paris, le CAC termine ce soir en hausse de 0,14% à 6611 points.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et on s'arrête d'abord ce soir sur les intempéries qui frappent une partie de la France. Des trombes d'eau depuis la nuit dernière sur plusieurs régions, en particulier la moitié nord. C'est ce qui a poussé Xavier Bertrand, candidat à sa réélection dans les Hauts-de-France, dimanche à suspendre temporairement sa campagne. Il faut dire que plusieurs communes de l'Oise ont vécu des orages diluviens, principalement Beauvais. Un adolescent est porté disparu. Les dégâts sont parfois impressionnants. Routes arrachées, voitures renversées, de très nombreux riverains ont passé plusieurs heures à éponger leur garage, leur maison ou leur ferme, comme le raconte Nabil.
Il y avait une serre qui était par terre, les arceaux tordus sur les cultures, plein de cailloux, plein de branches, plein de sable, plein de boue. La rue de la Cavéopière qui donne accès à la ferme, franchement, elle ressemble à rien, elle est impraticable, il y a plein de trous. On voit les tuyaux de canalisation, on voit les fils électriques, même le gaudron, il a bougé de sa place, il n'y a rien qui tient à sa place. De voir une serre qui fait 250 mètres carrés par terre, avec des bâches qu'on vient d'acheter il n'y a même pas 2 ans, ça fait mal au cœur. Normalement, il doit avoir une semaine ou 15 jours de travaux à faire. Ça fait mal, vraiment mal au cœur.
Un témoignage recueilli pour Europe 1 par Alexandra Sirgan. Ce soir, quelle est la situation? Nous sommes en ligne avec Luc Corac, directeur du SDIS de l'Oise. Merci d'être en direct avec nous dans Europe Soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce qu'il y a une amélioration ou pas du tout à l'heure où l'on se parle?
Alors, la pluie a stoppé. Nous avons engagé 929 interventions. Nous poursuivons les recherches pour essayer de retrouver le jeune homme qui est tombé dans la rivière Le Terrain hier soir. Nous avons essayé avec 18 plongeurs, avec des chiens, avec un drone, avec caméra thermique de le retrouver, mais pour l'instant, nous ne l'avons pas encore localisé. Nous poursuivons des interventions actuellement. 507 interventions sont à traiter. En ce moment, nous sommes engagés notamment sur la médiathèque où on pompe encore l'eau qui s'est écoulée depuis la nuit dernière. Nous avons évacué 12 violons du XVIIe siècle. Nous avons évacué des ouvrages. En ce moment, nous mettons des pompes supplémentaires pour limiter l'humidité des ouvrages et des tableaux qui subsistent dans cette médiathèque. Et sinon, nous avons plusieurs interventions sur le secteur rue de Calais. On a une maison qui menace de s'effondrer. En fait, on a des interventions particulières. Hier, nous avions l'hôpital de Beauvais qui était touché, impacté avec 8000 mètres qui ont été inondés. Donc effectivement, la situation est importante. Les services de la mairie de Beauvais, les services du conseil départemental, les services de police, de gendarmerie, bien évidemment, tout le monde, service des routes, hein, tout le monde travaille en interministériel, en interservice. Et nous essayons de rétablir la situation. Effectivement, des familles sont en train de nettoyer leur logement. Ils n'avaient jamais connu pareille mésaventure. En fait, hier soir, nous avons 41 mm de pluie. dont 16 mm en l'espace de 10 minutes. Donc c'est un épisode que nous n'avions pas connu à ce jour dans le département de l'Oise.
Oui. Quel est le conseil que vous donnez ce soir aux riverains de la région ? Il faut rester chez soi ?
Alors en fait, à partir du moment où les pluies ont stoppé, on espère que nous n'allons pas connaître un épisode comparable à celui de ces dernières heures, mais effectivement, nous avons les crues, hein. On a certaines rivières qui commencent à avoir leur niveau augmenté, donc il n'est pas utile de se promener dans les endroits qui sont plus ou moins dangereux. Hein.
Merci Luc Corac, directeur du SDIS de l'Oise. Merci d'avoir répondu en direct dans Europe Soir à la mi-journée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur place à Beauvais pour constater les dégâts et pour faire des annonces.
Les dégâts que nous allons constater sont impressionnants puisqu'il est tombé en précipitation à Beauvais, l'équivalent en 2 heures d'un mois de précipitation. Et ce qui n'est jamais arrivé sur votre territoire. Et la mobilisation des riverains, des commerçants, de l'ensemble des habitants de l'Oise, des villages et des villes touchées, c'est la mobilisation aussi de l'État, vous l'avez dit, je vous en remercie. Et j'étais vu bien naturellement à la demande du président de la République vous dire évidemment que nous convoquons les commissions qui se réuniront dans les prochains jours pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et que nous mettrons les moyens pour aider la ville de Beauvais, son agglomération, à revenir dans un état le plus normal possible.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en déplacement à la mi-journée à Beauvais. Anissa Dadi, on va faire avec vous un point plus global sur la météo. À quoi faut-il s'attendre la nuit prochaine ?
Alors déjà, pour commencer, Christophe, sachez que le département de l'Oise a été placé en vigilance orange crue inondation en raison, entre autres, d'une crue importante de la rivière Le Terrain. Les orages qui ont touché l'Oise et le bassin parisien ces dernières heures sont en train de se décaler vers l'est du pays. En se décalant, ils perdent en intensité. Ce soir et cette nuit, nous avons toujours une bande orageuse qui circule du sud-ouest au grand est. Donc, des plaines toulousaines jusqu'à la Lorraine, en passant par l'Auvergne, les orages se feront plus rares, les pluies plus éparses au fil des heures. Les régions que nous allons surveiller de près, Christophe, et là où il va falloir être très prudent dans les prochaines heures, sont les régions des Alpes et le nord de la vallée du Rhône. C'est donc dans le centre-est du pays que les prochains orages pourront être les plus forts cette nuit et tout au long de la journée de demain. Pour l'heure, aucun département n'est placé en vigilance orange aux orages.
Merci Anissa Dadi, on vous retrouve à la fin de ce journal pour une météo complète. Dans l'actualité également ce soir, les régionales. Depuis quelques minutes, c'est fait. Les candidats ont déposé leur liste en vue du second tour. Ils avaient jusqu'à 18h. Désormais, c'est une autre campagne qui démarre. Elle prendra fin vendredi à minuit pour le second tour dimanche. D'ici là, Louis Dragnel, chacun va lancer toutes ses forces dans la bataille.
Oui, en réalité, ça a commencé dès dimanche soir, car mis à part quelques candidats largement favoris, comme Laurent Wauquiez en Auvergne-Rhône-Alpes ou encore Carole Delga en Occitanie, c'est très serré dans d'autres régions. En PACA, le candidat RN Thierry Mariani ne s'attendait pas au retrait pur et simple, c'est-à-dire sans négociation de la liste de Jean-Laurent Felizia, un retrait au profit de Renaud Muselier. La bataille féroce entre Mariani et Muselier risque donc de durer tout au long de la semaine. Ensuite, en Île-de-France, le match est tendu entre Valérie Pécresse, qui a fait un bon score au premier tour, mais qui fait désormais face à une fusion de 3 listes de gauche allant du PS à la France Insoumise. Enfin, Xavier Bertrand, qui vient de suspendre sa campagne en raison des intempéries dans les Hauts-de-France, a de fortes chances de l'emporter, mais c'est son cheval de bataille. Il souhaite absolument tout faire pour réduire le plus possible les voix du Rassemblement National, en l'occurrence la liste conduite par Sébastien Chenu.
Louis de Ragnel, chef adjoint du service politique d'Europe 1. On reviendra dans quelques instants sur ces régionales. À 18h20, je recevrai l'écologiste Julien Bayou. En Île-de-France, toute la gauche a fusionné derrière lui. Dimanche, il espère déloger la sortante Valérie Pécresse. Un mot de la présidentielle. On connaît désormais les dates pour le premier et le second tour. Elles ont été confirmées dans l'après-midi. Premier tour le 10 avril 2022, second tour le 24 avril, ce qui permet d'éviter la date du 1er mai traditionnel, date de mobilisation pour les syndicats.
Europe Soir. Christophe Carré.
Depuis ce matin, c'est une affaire hors norme à laquelle doivent faire face les jurés de la cour d'assises de Loire-Atlantique. Dans le box, un homme, Hubert Caouissin, accusé d'avoir massacré toute une famille au cours de l'hiver 2017 à Orvault, près de Nantes. La famille Troadec, le père, la mère et les deux enfants âgés de 18 et 20 ans. Mobile de cette tuerie, un trésor qui finalement n'existait pas. Charles Guyard, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. Vous avez suivi cette première journée d'audience, marquée évidemment par l'émotion.
Oui, de l'émotion et une première plongée, surtout dans l'irrationnel. Lors du long interrogatoire de personnalité de Lydie Troadec, elle est poursuivie notamment pour modification de scène de crime. C'est la compagne de l'accusé qui comparait lui pour quadruple meurtre. Sa compagne, ou plutôt son ex-compagne. « Pour moi, aujourd'hui, c'est terminé », annonce-t-elle. Assis à quelques centimètres, Hubert Caouissin ne bronche pas. Avant cette mise au point matrimoniale, c'est là qu'on a touché le cœur de l'affaire, le délire de l'accusé autour de cette histoire d'or. Ce magot, désormais, Lydie n'y croit plus. Depuis un an et demi environ, si tutelle, car les médias ont dit que c'était faux, précise-t-elle d'un air candide. Mais à l'époque, avant 2017, c'était donc une idée fixe à Pont-de-Buis, à tel point que l'accusé avait son scénario en tête. Brigitte et Pascal Troadec voulaient la mort d'Henri, le fils du couple Caouissin, car Lydie, la maman, déjà malade, n'y survivrait pas. Alors, faute d'héritier direct dans la lignée Troadec, le trésor irait intégralement enrichir la famille d'Orvault. Dans sa paranoïa, l'accusé reste d'une implacable logique. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de colère contre Hubert et moi-même. Je culpabilise, car si je m'étais rendu compte qu'il allait si mal, ce drame ne serait peut-être pas arrivé. Je suis passé à côté, sanglote Lydie. Elle n'est pas passée à côté, hein, puisqu'elle a plongé avec lui dedans, a cru que son frère Pascal en voulait effectivement à la vie de son fils Henri, son fils qui soufflera ses 13 bougies le 8 juillet, soit le jour des réquisitions, peut-être même du verdict qui scellera alors le sort de ses parents.
Charles Guyard, correspondant d'Europe 1 dans l'Ouest. L'Euro de foot, avant d'évoquer les Bleus qui affrontent le Portugal demain soir, un mot d'abord de cette polémique qui met face à face Allemands et Hongrois, puisque pour le match Allemagne-Hongrie demain à Munich, la ville souhaitait illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel, celle de la communauté LGBT, pour dénoncer les discriminations dont elle est victime en Hongrie. Refus net de l'UEFA qui met en avant sa neutralité politique. Refus que regrette la France via la voix du secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune.
Je pense que c'est dommage de confondre un message politique au sens partisan, et on comprend pourquoi il faut en préserver le sport, et puis un message beaucoup plus large qui tient aux valeurs du sport européen, aux valeurs européennes qui portent sur l'égalité, sur l'absence de discrimination. Ils sont dans nos traités européens, dans nos chartes sportives, diverses et variées partout en Europe. Et donc, je pense que cette position frileuse est regrettable. J'ai noté que les autorités de Munich, le maire de Munich en particulier, avaient malgré tout confirmé leur volonté de ne pas pavoiser la ville dans ce cadre-là. Ça n'est pas mélanger sport et politique. Je crois que c'est rappeler un certain nombre de valeurs européennes et de valeurs du sport qui devraient tous nous réunir. Et c'est le contraire qui est dommage. C'est que au moment de l'euro, dans un pays qui accueille l'euro, il y ait des reculs de cette nature, comme on le voit en Hongrie.
Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes au micro Europe 1 de Louis Dragnel. Jean-François Pérez, on vous retrouve à Budapest. Vous êtes l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1. Cette affaire a connu un rebondissement tout à l'heure, puisque Munich a décidé de contourner cette interdiction de l'UEFA. Si elle ne peut pas illuminer son stade avec les couleurs arc-en-ciel, elle le fera sur plusieurs bâtiments de la ville, et tout ça est vécu comme une provocation en Hongrie.
Oui, et en dribblant l'UEFA, Munich a aussi dribblé la Hongrie, qui ne peut évidemment rien contre la volonté de la ville de pavoiser ses propres monuments aux couleurs arc-en-ciel, quitte à creuser un peu plus encore le fossé entre les deux pays. Un peu plus tôt dans la journée, l'omniprésent ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, avait salué la décision de l'UEFA d'interdire l'illumination de l'Allianz Arena. Les dirigeants du foot européen ont fait preuve de bon sens en ne participant pas à ce qui aurait été une provocation politique envers la Hongrie, a-t-il déclaré. La veille, il avait estimé extrêmement nuisible et dangereux de mélanger sport et politique, ajoutant que, plus que tous les autres, les Allemands le savent bien. Les points de friction se multiplient ces derniers mois autour des droits des homosexuels en Hongrie. La loi votée par le Parlement de Budapest vise simplement, selon le pouvoir en place, je cite, à protéger les enfants de la pédophilie. Le gouvernement ne comprend pas les voix qui s'élèvent à l'ouest. Cet après-midi, de sa chambre d'hôtel au bord du Danube, le footballeur français Antoine Griezmann a posté sur les réseaux sociaux une photo du stade de Munich illuminé aux couleurs arc-en-ciel. On en oublierait presque qu'il y a un match demain soir entre les deux pays, un match décisif pour la suite de l'Euro.
Merci Jean-François Pérez, envoyé spécial d'Europe 1 à Budapest. On en vient aux Bleus, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avant même le match de demain soir face au Portugal, mais qui devront terminer premier de leur groupe pour se faciliter la suite. Il faudra donc gagner face aux Portugais. On vous retrouve en direct, Cyril de la Morinerie. Il y avait conférence de presse tout à l'heure, entraînement en ce moment même. Ils sont dans quel état d'esprit, les Français ?
Écoutez, les Bleus sont très clairs sur leurs intentions. L'objectif demain, ce n'est pas de se reposer, mais bien, vous l'avez dit, de battre le Portugal qui avait privé la France, rappelez-vous, de titre en finale de l'Euro 2016, afin de terminer premier du groupe, bien sûr, et puis conserver une belle dynamique. C'est donc dans un état d'esprit conquérant que les Français entreront demain sur le terrain, confirme le capitaine Hugo Lloris.
On ne peut pas entrer sur un terrain avec cet esprit de calculer Lorsqu'on rentre sur un terrain, c'est toujours avec l'envie de gagner. Il y aura également du répondant parce que l'adversaire a un enjeu. Il doit aller chercher sa qualification. Voilà, l'objectif, c'est de continuer à engranger de la confiance à travers des défis. Et demain, ça en sera un. Un gros même, face au tenant du titre. Et on sait qu'à partir des huitièmes de finale, ce sera une nouvelle compétition qui démarrera. Donc, ce sera un match engagé avec de l'enjeu. Et je crois que c'est important pour nous de bien finir cette phase de poule avec un résultat positif.
Et après Hugo Lloris, c'est Didier Deschamps qui s'est exprimé. Le sélectionneur n'a pas voulu dire s'il allait faire tourner demain et si oui, dans quelle proportion. Les Bleus qui vont donc s'entraîner dans quelques minutes ici au stade Nandor de Budapest, toujours sous une forte chaleur, même si la bonne nouvelle demain, c'est que le match, bien sûr, débutera à 21h.
Merci Cyril de la Morinerie en direct pour Europe 1 de Budapest. À partir de 20h, vous retrouverez toute l'équipe d'Europe 1 Football Club autour de Lionel Rousseau. Émission jusqu'à 23h30. Deux matchs au programme ce soir, Croatie-Écosse et Tchéquie-Angleterre. La météo, Anissa Haddadi, de nouveaux orages à attendre demain.
Oui, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'aux Alpes, donc au sud de la Loire, en passant par le Limousin, l'Auvergne, la région Rhône-Alpes et les Cévennes. Le tonnerre gronde demain, des orages qui pourraient être localement forts, en particulier au nord de la vallée du Rhône. Au bord de la Méditerranée, rien à signaler. Le soleil brille dès le lever du jour. Quelques nuages qui bourgeonnent dans l'après-midi. Au nord de la Loire, jusqu'aux Ardennes. Et bien là, nous avons en Normandie, sur la région parisienne et la Bretagne, un temps qui redevient sec avec même des éclaircies. Les températures sont stationnaires, 10 à 20 degrés demain matin. Dans l'après-midi, il fait toujours frais dans le nord. 17 à Cherbourg, 17 à Caen. 20 degrés à Paris, 22 à Bordeaux. Dans le sud, c'est toujours estival, avec 26 degrés à Lyon, 27 à Nice et 30 degrés pour Marseille et Bastia.
Europe 1, écoutez le monde changer.